OK, on va commencer notre 44e leçon dans notre série Le péché, du commandement à la grâce. On va regarder aujourd'hui le troisième point du calvinisme, la rédemption particulière. Alors, on avait regardé un petit peu la semaine dernière la signification de l'acronyme TULIP, donc T pour Total Depravity, N Inability, dépravation, corruption totale et impuissance de l'homme, U pour Unconditional Election, élection inconditionnelle, L pour Limited Atonement ou rédemption particulière, c'est ce qu'on va voir cette semaine, et il va nous rester encore deux autres points à regarder, Irresistible Grace ou grâce irrésistible, et P pour Preservation and Perseverance of the Saints, donc préservation et persévérance des saints. Alors aujourd'hui, on étudie, comme on vient de le mentionner, la lettre L pour Limited Atonement, la rédemption particulière. Alors, la rédemption particulière, c'est le cœur du calvinisme, le cœur du christianisme et le cœur de l'Évangile. C'est ce que les anglophones appellent « the acid test », le test à l'acide de notre système théologique et reflète notre position sur plusieurs choses. La nature de Dieu, la nature de la loi de Dieu et la nature de l'homme et du péché. La question est de déterminer de faire un choix en deux choses. Premièrement, Christ est mort pour rendre possible le salut de tous les hommes, qui est la position arminienne, ou Christ est mort pour rendre certain le salut des élus, qui est la position calviniste, qui est la nôtre. Alors, nous sommes pleinement convaincus que Christ est mort pour rendre certain le salut des élus, c'est notre position, et nous croyons que c'est la réponse de la Bible. Alors, plusieurs auteurs chrétiens croit qu'il n'y a pas de meilleure doctrine pour séparer les brebis d'avec les boucs. Alors, c'est vraiment une affirmation assez catégorique. Alors, le premier point qu'on va regarder, le dessein de Christ, c'est de sauver son peuple. Alors, les Saintes Écritures enseignent que Christ est venu, non pour rendre capables de se sauver eux-mêmes, les hommes, mais pour sauver des pécheurs. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Alors, il parle dans le cadre, pour nous, c'est qui le nous, les chrétiens, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Galates, chapitre 1, verset 3 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. 1 Timothée chapitre 1 verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde entier pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Tite, chapitre 2, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. 1 Pierre, chapitre 3, verset 18, Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à part quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Alors, la deuxième chose qu'on va regarder, les Saintes Écritures enseignent qu'à cause de l'œuvre de Christ, donc son obéissance active et son obéissance passive, son peuple est réconcilié avec Dieu et que le Saint-Esprit leur est donné, qu'il les régénère et les sanctifie. Donc, Christ, par son œuvre rédemptrice, a assuré la réconciliation de son peuple. Romains, chapitre 5, verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Éphésiens chapitre 2, versets 15 et 16. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Autre point qu'on va regarder, Christ a pourvu à la parfaite justice et au pardon requis pour la justification de son peuple. Romains chapitre 3, versets 24 et 25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, et Romains chapitre 5, versets 8 et 9, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. » Galates 3, 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Colossiens, chapitre 1, verset 13 et 14, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Hébreux 9, 12, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption particulière. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Autre point qu'on va regarder, les Saintes Écritures enseignent que Christ a pourvu au cadeau, donc au don du Saint-Esprit, qui incluait la régénération et la sanctification, et tout cela implique, et tout ce que cela implique. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Philippiens 1, 29. « Car il vous a fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Acte 5, verset 31, « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Tite, chapitre 2, verset 14, « qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Éphésiens, chapitre 5, versets 25 et 26. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. » Hébreux, chapitre 9, verset 14. « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Hébreux, chapitre 13, verset 12. « C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » 1 Jean, chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Nous sommes actuellement en communion et le sang de Christ, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le deuxième point qu'on va regarder, le dessein de Christ accomplir, consistait à accomplir l'accord éternel conclu avec le Père. Alors Jésus-Christ fut envoyé par le Père pour sauver le peuple qu'il lui avait donné. Ceux donnés par le Père viendront à lui, verront et croiront en lui, et nul de ceux-là ne seront perdus. Jean chapitre 6, versets 35 à 40. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez cru, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Alors Jésus-Christ, à titre de bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Tous ceux qui sont ses brebis seront amenés dans sa bergerie. Il leur sera donné d'entendre sa voix et de les suivre. Alors, à noter que le Père a donné les brebis au Christ. Jean, chapitre 10, verset 11 et verset 14 à 18. Verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et verset 14 à 18, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. » Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jean, chapitre 10, versets 24 à 29. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne me croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Autre point qu'on va regarder, Jésus-Christ, dans sa prière sacerdotale, ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui lui ont été donnés par le Père, pour accomplir l'œuvre qui lui a été confiée par le Père et pour laquelle il a été envoyé. Jésus-Christ a fait connaître le Père à son peuple et lui a donné la vie éternelle. Jean 17, versets 1 à 11. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, à moi, est à toi, et tout ce qui est à toi, est à moi, je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Jean 17, verset 20, 24 à 26. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors 24 à 26, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Autre point, Jésus-Christ trouve sa source, trouve la source de son œuvre dans le conseil éternel, dans l'éternel conseil de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 12. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. En lui, Dieu nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Autre point, Jésus-Christ, comme Adam, était un représentant, un chef représentant la race humaine. En Adam, nous avons péché. En Christ, le second Adam, nous avons mené une vie de parfaite justice par imputation. La désobéissance de l'un, le premier Adam, nous a constitués pécheurs, et par l'obéissance de l'autre, le second Adam, c'est-à-dire Christ, nous a rendus justes. Romains chapitre 5, verset 12 et verset 17 à 19. Verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Verset 17 à 19, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus justes, ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, ce qui est important à remarquer, c'est vraiment le temps du verbe au passé, dans le verset 20, parce que ça dit « tous ont péché ». Alors, le temps du verbe au passé indique que nous avons péché en Adam, choisi de le faire, décidé de le faire. Troisième point qu'on va regarder, le besoin d'harmoniser les passages apparemment contradictoires. Alors, certains passages semblent enseigner que Christ est mort pour tous les hommes. Il existe deux principales classes de versets utilisées pour promouvoir la fausse doctrine que Christ est mort pour tous les hommes. Alors, on a les versets avec le mot « monde » dedans, puis on a les versets avec le mot « tous » dedans. On va regarder d'abord ceux avec le mot « monde ». Jean 1, verset 9 et verset 29. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » On va d'abord lire les versets et ensuite on va regarder pourquoi ça ne s'applique pas dans la compréhension d'un salut universel. On va d'abord les lire et ensuite on va les expliquer. Jean chapitre 3, versets 16 et 17, celui-là est cité très souvent, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean chapitre 4, verset 42, « Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2, « Mes petits-enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. » Alors, bien entendu, quand on parle de doctrine calviniste, de rédemption particulière, c'est sûr que si vous parlez avec un Arménien, il va vous sortir un de ces versets-là, ou plusieurs de ces versets-là. Et pourquoi on a fait un paragraphe, vous dire on a besoin de savoir harmoniser, il faut le savoir, parce que si on ne le fait pas, on a l'air de comme quelqu'un qui ne sait plus quoi dire puis qui se contredit. Et aussi les versets qui sont souvent utilisés pour réfuter la doctrine de la rédemption particulière, les versets qui incluent le mot « tous ». Alors Romains 5, 18, « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Et 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul homme, un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Et le verset 15, « Et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 1 Timothée, chapitre 2, versets 4 à 6, celui-là aussi nous est souvent ramené quand on parle de rédemption particulière. Qui veut, alors dans le contexte on parle de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Hébreux, chapitre 2, verset 9. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors, bien entendu, il faut regarder ces versets-là dans leur contexte. Ces versets-là servaient à corriger la fausse notion que le salut était accessible aux Juifs seulement. Ils servaient à démontrer que, premièrement, Christ est mort pour tous les hommes sans distinction, c'est-à-dire qu'il est mort pour les païens comme pour les Juifs, comme classe ou catégorie de l'humanité, mais non que Christ est mort pour tous les hommes sans exception, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort avec le dessein de sauver tous et chacun des pécheurs perdus. Alors, bien entendu, c'était pour déterminer que le Seigneur sauverait tous, comme on le dit, sans distinction, que tu sois un Juif, que tu sois, ça n'a pas d'importance, la langue, la race, mais pas tous les hommes sans exception. Alors, ces versets-là avaient ce but-là. Alors, autre idée qu'on se doit de regarder, certains passages enseignent clairement que Christ est mort pour sauver ceux et seulement ceux que le Père lui a donnés. Matthieu 20, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Matthieu 26, verset 28, car ceci est mon sang, le sang d'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Jean 10, verset 11, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 11, verset 50 à 53, vous ne réfléchissiez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est clair dans le contexte. On parle de l'Église, puis il dit qu'il l'a acquise par son propre sang. Donc, il ne l'a pas acquise tout le monde. Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, elle, c'est l'Église, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Romains 8, verset 32-34, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Hébreux 2, 17, « En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle, dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. » Hébreux 3, verset 1, c'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Hébreux 9, verset 15 et verset 28, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Verset 28, « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Et on a Apocalypse, chapitre 5, verset 9, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Alors, la première application qu'on peut faire à partir de cette très, très, très brève étude de la rédemption particulière, alors la doctrine de la rédemption particulière est d'une importance capitale. Ici, je vais citer Leon Morris qui dit « La doctrine de l'expiation est la doctrine cruciale de la foi. À moins d'être ici dans la vérité, ce que nous croyons ailleurs est vraiment sans importance. » En anglais, les mots qu'il avait utilisés, c'est « The atonement is the crucial doctrine of the faith. Unless we are right here, it matters not, it seems to me, what we are like elsewhere. » Deuxième application, la doctrine de l'expiation de Jésus n'est pas une branche de la vérité chrétienne, mais elle en constitue le cœur. La doctrine de l'expiation, c'est le cerveau, et la colonne vertébrale de la chrétienté. Spurgeon disait, « Si le fait que le Seigneur Jésus-Christ a porté nos péchés à notre place n'est pas l'Évangile, je n'ai pas d'Évangile à prêcher. » Troisième application, la doctrine de la rédemption particulière donne toute la gloire à Dieu, sa souveraineté absolue dans ses décrets, son immuabilité, sa sainteté, sa justice, sa parfaite unité, parce que ça a été décidé en conseil trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, son amour, sa miséricorde, la perfection de sa loi du décalogue. Quatrième application, la doctrine de la rédemption particulière remet l'homme à sa place, sa condition désespérée et irrémédiablement corrompue, puis la nature et les conséquences du péché. Cinquième application, la doctrine de la rédemption particulière harmonise et exalte les saintes Écritures. Sixième, la doctrine de la rédemption particulière s'harmonise avec la vraie nature de l'Église, donc celle régénérée par le Saint-Esprit. Elle sert à l'édification mutuelle, à la communion fraternelle, à l'adoration véritable et à l'évangélisation avec les bons motifs. Et le septième application, la doctrine de la rédemption particulière, sépare la vérité de l'erreur, qu'elle soit volontaire ou involontaire. Alors, connaissons la vérité, enseignons la vérité, prêchons la vérité, par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.